Métaphysique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 1er février 85.
Nous allons continuer cette petite topique, préciser qu'est-ce que c'est que la qualité dans la philosophie d'Aristote, puisque comme je vous le disais, c'est le premier qui essaie de saisir le ti esti de la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Qu'est-ce que ça représente? Alors toujours le ti esti qui est commandé en dernier lieu par le ti esti de l'être. Ça ne veut pas dire que le premier ti esti, c'est le ti esti de l'être. Le ti esti, c'est le cheminement d'une intelligence qui veut aller le plus loin possible pour saisir toutes les déterminations. Dernier lieu, c'est le tissé. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous avions vu d'abord la position des catégories. Nous sommes dedans. C'est important de saisir ce premier moment d'une réflexion pré-philosophique qui sont les catégories. La manière dont nous qualifions l'homme. Puisque les catégories regardent la manière dont on qualifie l'homme. Et par là, on détermine les diverses manières dont on qualifie l'homme. Et lorsqu'il s'agit de la qualité, c'est évidemment la manière la plus évidente de la qualification, puisque on qualifie par le point de vue de la qualité. La première espèce, donc, c'est le exis diathesis. Exis, l'habitus, l'état stable, et diathesis, la disposition. Bon, nous l'avons vu, j'y reviens pas. Un autre genre de qualité est celui selon lequel on parle de bon lutteur, de bon coureur. C'est l'aptitude ou l'inaptitude naturelle à accomplir facilement quelque chose. Le troisième genre de qualité est formé par les qualités passives. Affective, les passions ou affections. Par exemple, la douceur, l'amertume, l'âcreté. Ces qualités sont les plus pures. Que ce soit là des qualités, c'est clair, car les êtres qui les possèdent sont dits de telles qualités en raison de leur présence en eux. Alors nous avons en dernier lieu, quatrième genre de qualité. L'ordre se prend du legetai, hein, pas du tout du point de vue, au fond, strictement du point de vue de notre connaissance génétique. La quatrième genre de qualité, c'est la figure. C'est très, très difficile à traduire. Hein, on a traduit en latin figura, le schéma. Le schéma, c'est quelque chose de spécial. Pas dire le chêne, mais c'est... Alors, traduire figura, je comprends un peu. La figure, c'est pas du tout... C'est la physionomie, la figure. Hein, figura. C'est la physionomie, la figure d'un terrain, la physionomie d'un paysage. C'est ça, figura. C'est pas uniquement la figure humaine. Hein. Alors, schéma et morphée. La forme. Vous voyez que la quatrième genre de qualité est quelque chose de très spécial et très général. Celle qui appartient à chacun. Et de plus, la droiture, la courbure, tout ce qui lui est semblable. Un être, en effet, est qualifié d'après toutes ses déterminations. Une chose n'est-elle pas dite avoir telle qualité parce qu'elle est triangulaire, parce qu'elle est ronde, et ainsi de suite. Donc là, la dernière espèce de qualité, je crois, elle est particulièrement importante. Aristote dira, par exemple, dans les parties des animaux, que c'est par le point de vue de la figura qu'on pourra le mieux saisir l'espèce. Donc du côté de la connaissance, la figura joue un rôle très important, comme la morphée. La morphée et la figura jouent un rôle capital. Du côté où Aristote se place, il met quatrième espèce de qualité. Et la première, elle existe. Première et quatrième. L'exis, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et du côté de la connaissance, l'exis n'est pas du tout ce qui est premièrement connu. Ce qui est premièrement connu, c'est mort. C'est la figura, la manière d'être, la manière de se tenir, la manière dont les êtres mangent ce qui est mort. C'est une manière d'être. Là, c'est la figura. Quant aux rares et aux denses, aux rugueux, aux polis, ils semblent signifier une chose de telle qualité, mais en réalité, ces déterminations expriment plutôt la position des parties. Alors, la thésis. Aristote précise, une chose est dense par l'étroite union de ses parties entre elles. Cela est très significatif, il nous révèle le discernement du philosophe qui entend bien distinguer la qualité de la position des parties. La position des parties est autre chose que le point de vue de la qualité. Et voyez, cependant, la diathésis, qui est d'une certaine manière une disposition, n'est pas la disposition des parties par rapport au tout. C'est une disposition d'une détermination par rapport à la réalité. C'est assez subtil, mais c'est intéressant de voir qu'Aristote a fait des distinctions entre le point de vue de la disposition et le point de vue tout simplement de la thésis, la position des termes. Alors, soulignons que cette énumération que fait Aristote, c'est une classification pré-philosophique. Et Aristote va toujours, comme dans les catégories, essayer de préciser ensuite les caractères propres de la qualité. Alors, la contrariété appartient à la qualité et aux réalités qualifiées. Par exemple, la justice est le contraire de l'injustice. L'injuste est le contraire du juste. Donc la contrariété est propre à la qualité. Les qualités amènent une contrariété, une certaine rivalité. Les réalités qualifiées sont capables de plus et de moins. Une chose blanche est donc plus ou moins blanche comparativement à une autre. Si telle réalité qualifiée est capable de plus et de moins, la qualité prise en elle-même ne l'est pas, parce qu'elle a quelque chose d'indivisible. Et par rapport au sujet qui est qualifié, alors on trouve du plus et du moins. Alors, la qualité se dit en premier lieu, c'est savoir exactement quelle est la propriété exacte de la qualité. Est-ce que c'est la contrariété? Est-ce que c'est le plus et le moins? En répondant à l'objection selon laquelle cette division ne serait pas propre à la qualité, puisque parmi les qualités énumérées, beaucoup sont des relatifs, Aristote précise que les gens sont des termes relatifs, tandis qu'aucune espèce particulière ne l'est. La science, en tant que genre, est par essence même ce qui est relatif à autre chose. Il n'y a science que de quelque chose. Mais la science particulière n'est pas relative à autre chose. On ne dit pas que la grammaire est grammaire de quelque chose. Les sciences particulières ne font pas partie des relations, ce sont des qualités des exis. C'est elles seules que nous possédons, puisque par elles nous sommes qualifiés. Ça, c'est une distinction intéressante et qui serait très curieuse à bien préciser, comment le genre implique quelque chose de relatif, parce que tout genre est imparfait. Si tout genre est imparfait, il est donc nécessairement relatif à quelque chose qui va le préciser. C'est ce qu'on appellera, d'une mauvaise expression, relation transcendantale. Nous l'avons vu à propos de la relation. Tandis que l'espèce, elle, est proprement qualifiée. Et alors ça nous fait comprendre comment la qualité comme telle demande d'être indivisible. Alors que le genre n'est pas indivisible, et c'est pour ça qu'il n'est pas premièrement qualité et qu'il est relatif à autre chose. Ce sont ces petites remarques très intelligentes, parce que nous, nous confondons, et c'est là on voit très bien qu'on n'est pas du tout dans les catégories, dans un point de vue purement de grammaire. Ça n'a aucun sens, au point de vue grammaire, de se poser ces questions-là. C'est vraiment une question philosophique, mais c'est une question philosophique qui n'est pas au niveau de l'analyse des principes. Donc c'est une question philosophique au niveau des diverses formes. En philosophie première, Aristote va également se poser la question « qu'est-ce que c'est que la qualité ?» Alors, en philosophie première, le livre Delta, chapitre 14. Le livre Delta... Ceci, c'est le dictionnaire en métaphysique. Dans les métaphysiques d'Aristote, le livre Delta, c'est un petit dictionnaire. Il faut de temps en temps le lire, c'est excellent de lire ça. Parce qu'il faut connaître la signification des termes. Alors, c'est le Lalande du temps. Beaucoup plus intelligent, moins gros, plus petit, mais beaucoup plus pertinent. Alors, c'est Aristote qui lui-même éprouve le besoin de préciser la signification des termes. Bien alors, vous pouvez regarder dans Delta, chapitre 14, ce qu'Aristote dit sur la qualité. La qualité se dit en premier lieu de la différence de la substance. Ça, ça ferait beaucoup penser, comme dirait Heidegger. La diaphora tes ousias. La qualité est dite en métaphysique. Comment regarde-t-on la qualité? On l'a dit diaphora. Donc on l'a dit différent. Ça, c'est très intelligent. La qualité fait différer. Elle met une différence. La substance comme telle est indivisible. C'est un principe. Par la qualité, la substance va s'opposer, va mettre une distance à l'égard des autres. Par exemple, l'homme est un animal d'une certaine qualité, parce qu'il est bipède. Oui, la diaphora, alors la différence qui viendra là. C'est le fondement de ce qu'on appelle au niveau des prédicables la différence spécifique. Oui. C'est intéressant de voir le fondement de la différence spécifique dans la qualité, la diaphora. La diaphora n'est pas la substance, donc n'est pas l'illusion, mais la diaphora n'est pas accident. La diaphora est quelque chose qui vient qualifier l'illusion. Ça, c'est très astucieux de voir ça, parce que ça nous fait comprendre que la qualité comme qualité est reliée immédiatement à l'illusion. Ça va nous mettre sur une piste très intéressante au point de vue philosophique. La qualité comme telle n'est pas accidentelle. Nous disons bien que la qualité est un accident. Mais ça répugne à la qualité d'être un accident. Alors que la relation, c'est l'accident de l'accident. Vous voyez, c'est pour saisir ces deux aspects tout à fait différents dans l'ordre de l'être. La qualité n'est pas la substance, c'est bien évident, mais elle est en conjonction intime avec la substance. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'elle est la différence de l'ousia. Il faut réfléchir sur ce que ça veut dire. Hein. Diaphora tes ousias. est la différence ousia. Elle est ce qui va permettre à la substance de se manifester, de s'opposer, de permettre à l'être qui a telle substance de différer des autres. Je crois que ça, c'est très important à bien saisir. La qualité ne structure pas, mais elle fait différer. Elle distingue. Elle est différente de l'ousia. Elle est capable de faire différer radicalement jusqu'au principe essentiel. Voilà ce que la philosophie première nous dit en premier lieu. Alors voyez tout de suite, hein, si vous voulez comparer le génie différent des catégories et de la philosophie première, les catégories qui sont au niveau du légétal, du légal, si vous voulez, alors qu'en métaphysique, on est au niveau de l'archéologie. Les catégories disent que la qualité première c'est l'exis et la métaphysique dit c'est la diaphora. Alors ça, ce serait, pour ceux qui veulent entrer un tout petit peu dans la pensée aristotélicienne, c'est sûrement une porte très intéressante de bien voir qu'au niveau des catégories, la qualité est avant tout exis. C'est ce qui donne, si vous voulez, à la réalité sa stabilité. Exis, un état. C'est une stabilité. La stabilité de l'intelligence, c'est grâce à nos habitudes. Un ouvrier qualifié, il est stabilisé. Il y a quelque chose qui stabilise. Du côté de l'être, c'est la diaphore. Comme c'est différent. C'est deux regards totalement différents. La même chose, hein, la qualité, d'un pas fait différer. On n'est plus au niveau des principes. Alors c'est là où il faudrait se demander si justement la qualité, par rapport à la philosophie contemporaine, c'est pas l'ordre des valeurs. Il faudra se demander ça. Hein. La philosophie contemporaine parle des valeurs. Qu'est-ce que c'est? Alors, quel lien entre valeur et qualité? Parce que la valeur, c'est pas justement ce qui fait différer. Et puis, le point de vue de l'exis, c'est la qualité qui donne à l'être une stabilité. Un être n'a pas de stabilité sans qualité. On est girouette si on n'a pas de qualité. On est constamment mobile. Dès qu'on est qualifié, on a une détermination. Alors, ça stabilise. La qualité stabilise. Ça, c'est sûr. Et la qualité fait différer. C'est, je crois, très important de saisir ces deux aspects, ces deux extrêmes dans la réflexion de la qualité. Toujours dans la métaphysique, en un autre sens, la qualité se dit des choses mathématiques immobiles. Les nombres composés peuvent être envisagés dans leur unité propre comme une certaine qualité et manifester alors ce qui, dans la nature du nombre, est en dehors de la quantité. La nature de chaque nombre n'est-elle pas ce qu'il y a dans son ultime unité propre? La qualité dans le domaine mathématique. Vous voyez, la valeur. La valeur c'est au fond lié aussi aux mathématiques. La qualité se dit des propriétés de des substances en mouvement, comme la chaleur et le froid, quand elles échangent, les corps qu'elles affectent sont dits subir une altération. La qualité, c'est le lieu de l'altération. L'altération se termine à une qualité. Enfin, la qualité se dit des vertus et des vices, et en général du bien et du mal. Alors, c'est aussi très curieux. On termine en philosophie première la qualité au niveau du bien et du mal, alors qu'au niveau des catégories, l'exis est toujours tourné vers le bien. Là encore, deux extrêmes. Comprenez ce point de vue, parce que c'est intéressant d'y réfléchir, on revoit ces... De comprendre que le propre du sage, c'est d'ordonner. C'est de comprendre que l'ordre des catégories et l'ordre du dictionnaire de la philosophie première, c'est presque inverse. L'ordre du legetai et l'ordre du toeinain, quand il s'agit de la qualité, apparaissent comme deux ordres différents, mais totalement différents. La qualité, c'est le lieu de rencontre du legetai et de l'être, c'est bien évident. Si la philosophie de la phénoménologie regarde avant tout la qualité, c'est le lieu de rencontre par le point de vue de l'intentionnalité, du legetai, du toeinai. Et vous voyez que si vous respectez la distinction entre les deux, vous avez un ordre totalement différent dans les catégories que celui du toeinai. Et ça, il faut y réfléchir, c'est parce que c'est par là qu'on entre dans la qualité. C'est par là qu'on essaie de saisir ce qu'est la qualité, de comprendre que justement il y a là deux choses totalement différentes. Et que c'est à l'égard de la qualité que la différence se fait sentir le mieux. Après avoir énuméré ces quatre significations de la qualité, Aristote cherche à les ramener à deux. La qualité première, c'est la différence de la substance. C'est net. La qualité signifie, donc la seconde signification de la qualité, est d'être une détermination des êtres mobiles en tant que mobiles, et une différence du mouvement. Ah. Donc, les deux manières dont on va regarder le point de vue de la qualité du point de vue philosophie première, c'est de voir la diaphora, la différence du côté de l'être et la différence du côté du mouvement. Donc, c'est bien cet aspect différence qui montre le mieux ce qu'est la qualité du niveau de l'être. Elle fait différer la substance, elle fait différer le mouvement. C'est ça le propre de la qualité. Et du côté du legetai, je reviens, c'est le point de vue de l'exis. C'est la stabilité. C'est la stabilité et la disposition. On essaiera, hein, je vous pose des problèmes, parce qu'un topic doit nous faire poser des problèmes. Hein. C'est pour ça que je... Pour éveiller notre intelligence. On doit éveiller son intelligence en voyant cette opposition. Et on se dit, mais pourquoi? On n'y a jamais pensé. Pourquoi l'ordre du legetai est comme ça? Pourquoi l'ordre du toeinai est comme ça? Alors, ça ne donne pas d'explication. Hein. Comprenez. Comment ça se fait? C'est quand même très curieux. Alors comment ça se fait que c'est à l'égard de la qualité qui semblerait à première vue faire le lien entre l'intelligibilité et l'être, que c'est à l'égard de la qualité que l'opposition se fait la plus forte? Ça, on n'y comprend rien. On y perd son grec. Hein. Parce que ça, c'est évident. Comment se fait-il que c'est comme ça? Je prends exprès les textes. Ça, c'est dit comme ça. Ça doit nous faire comprendre. Et je vous dis, si on essaie de comprendre la philosophie de la valeur et la phénoménologie, on se retrouve dans une philosophie de la qualité. On l'a vu pour Platon, on le verra pour Heidegger. Ce sont des philosophes qui demeurent au niveau de la qualité. Aristote, lui, dépasse la qualité et va au niveau de l'être. Et alors, en allant au niveau de l'être, il distingue le legetal, le tohenal. Dans la philosophie première, Aristote considère la qualité relativement à ce qui est, comme la première modalité de l'être, et l'ousia, la qualité est considérée relativement à l'ousia. Sous cet aspect, la qualité apparaît en premier lieu comme la différence, ce qui fait, ce qui distingue. Ce qui distingue un être d'un autre. Dans le monde du devenir, la qualité est propriété des natures qui sont au principe du mouvement. Dans le monde des opérations vitales, la qualité est ce qui permet de voir la différence à ce niveau. Donc, on peut considérer que dans le monde de l'être, la qualité comme telle est ce qui va donner le caractère particulier à l'être. Alors, il faudrait regarder le rôle de la qualité chez Aristote dans le décello et dans la physique. C'est-à-dire dans ses livres de la nature. La qualité fait comprendre le mouvement. L'intelligibilité qu'on a du mouvement, le mouvement, ça nous échappe tout le temps. Héraclite, lui, dit que le mouvement nous empêche d'avoir une intelligibilité des choses. Le pantarei, on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Pantarei, tout coule. Bergson dira quelque chose d'analogue. Le fluxus. Donc, aucune intelligibilité dans le mouvement. Et Bergson fait une critique à Aristote au niveau du mouvement. C'est une des choses intéressantes de Bergson, ça. Voir la critique que Bergson fait par rapport au mouvement. Alors, saisir le fluxus, hein, et Bergson critique Aristote en disant il analyse le mouvement, alors que le mouvement ne peut pas être analysé. C'est un fluxus. Alors, on oublie qu'Aristote étudie en physique, le mouvement par les deux contraires. Le début de la physique, de la philosophie de la nature d'Aristote, dit que on ne peut pas saisir le mouvement sans les deux contraires et sans le sujet. Toute l'intelligibilité du mouvement est donnée par les deux contraires. Donc, par la qualité. C'est l'altération qui est le mouvement, je ne dis pas le plus parfait. Vous savez bien que pour Aristote, le mouvement le plus parfait, c'est le mouvement local. C'est le seul mouvement qu'il reconnaît dans le décello pour des êtres sensibles et incorruptibles. Mais il reconnaît que l'altération, c'est le mouvement le plus connaissable. Et ce sont les deux contraires. Toute l'intelligibilité du mouvement, et c'est ce que Bergson n'a pas vu, toute l'intelligibilité du mouvement se prend des deux contraires. Différence dans l'ordre du devenir. Vous voyez ce qu'il a dit? Différence dans l'ordre du devenir. Les contraires ne font pas comprendre le mouvement. Le mouvement est autre chose que les contraires. Mais tout mouvement est entre deux contraires. Ce qui fait saisir, voyez, la signification profonde du devenir qui est ordonnée à ces contraires. Alors, il faudrait regarder également dans sa philosophie du vivant quelle est la place de la qualité. C'est pour essayer de saisir, hein, comment toute la philosophie d'Aristote pourrait se comprendre par la qualité. Et que la qualité a une place très importante dans sa philosophie. C'est d'essayer de comprendre comment, dans le vivant, l'opération vitale qualifie le vivant. l'opération vitale est une qualité du vivant et fait comprendre la différence de l'âme. Diaphora tes ousias. La qualité, c'est la différence de l'ousia. Or, l'âme, c'est l'ousia chez le vivant. Et donc, la qualité fait la différence de l'âme. Or, la différence de l'âme se prend par les opérations vitales. Vous voyez comment les opérations vitales sont les différentes qualités de l'âme végétative, de l'âme sensitive, de l'âme proprement noétique. C'est là où on voit les différents degrés du vivant qui se prennent du côté des opérations et donc du côté de la qualité. En éthique et en politique, la qualité va jouer un rôle extrêmement important au niveau de l'habitus, au niveau de l'exis. Je crois qu'on peut dire que l'éthique d'Aristote se structure par les vertus. L'éthique d'Aristote se fonde par le point de vue de la finalité. Pas d'éthique sans la finalité, mais la structure de l'éthique se prend du côté des vertus. Enfin, c'est pour ça que ça joue un tel rôle dans son éthique. Et alors toujours cette idée de la diaphora. Qu'est-ce qui fait la différence de nos actes humains et des différents degrés de nos actes humains? C'est la qualité au niveau éthique, c'est la vertu. Et en politique, on peut dire que les qualités vont se ramener aux formes de gouvernement. Autrement dit, hein, si nous essayons de résumer un tout petit peu cette position dans Aristote, qui est difficile, hein, parce que ça, je fais un petit vol hein, rapide sur Aristote, mais je crois qu'on doit le faire quand il s'agit de la qualité. Je vous disais, Aristote est le premier philosophe qui se pose la question du tiesti de la qualité. Et on peut essayer de comprendre toutes les parties de la philosophie d'Aristote par le point de vue de la qualité. Et saisir chacune des parties de la philosophie d'Aristote par ce rôle particulier de la qualité. La qualité en philosophie première, la qualité en physique, la qualité en philosophie du vivant, la qualité en éthique, la qualité en politique. Et vous avez toutes les différentes qualités qui sont là présentes. Autrement dit, chaque partie de la philosophie va se diversifier par le point de vue de la qualité. De sorte qu'il y aurait une étude extrêmement intéressante, qui est difficile à faire, mais extrêmement intéressante de regarder Aristote dans ses différents livres par le point de vue de la qualité. C'est un travail énorme, mais je crois que ce serait extrêmement intéressant pour justement saisir ce que représentent pour Aristote les différentes parties de la philosophie. C'est directement par le point de vue de la qualité que nous voyons les mises en lumière, si vous voulez. La qualité est toujours un peu une mise en lumière. Alors c'est une mise en lumière, une manifestation. C'est sûr que c'est par les principes qu'on saisit les différentes parties d'Aristote, mais les principes ne manifestent pas, tandis que la qualité manifeste. Et c'est pour ça que c'est plus facile, et c'est pour ça que la qualité fait différer. Parce que ça manifeste les différences, ça manifeste les niveaux différents par lesquels nous pouvons saisir ces différentes parties de la philosophie. Sitôt après Aristote, les premiers stoïciens, Zénon, Chrysippe, distinguent le substrat, le sujet, l'hypokaïmenon, désignant un des principes du corps, la matière passive, divisible à l'infini, qui supportera les qualités. Alors, dans la philosophie stoïcienne, nous retrouvons cette distinction très importante, qualité-matière. Les stoïciens ne traitent plus, ne découvrent plus les principes propres. C'est la première perte des principes propres. Et toute la philosophie des stoïciens se divise de cette manière, le sujet, l'upokaimenon, ce qui est situé en dessous, c'est le sujet. Donc, l'upokaimenon, le sujet, qui en réalité devient la matière, et puis le poyon, la qualité. Les qualités. Voilà toute la description de la philosophie stoïcienne. Une fois qu'on a saisi que la philosophie stoïcienne, c'est d'une part le sujet matériel et d'autre part la qualité, vous voyez bien comment le point de vue des principes propres disparaît, la diaphora tient lieu de substance. C'est la qualité, c'est la différence qui apparaît comme se donnant elle-même. La qualité est vraiment essentielle, étant comme un principe pneumatique, ayant sa tension propre, son tonon. C'est eux qui appellent ça pneumatique, hein, faut pas l'oublier. Le pneuma, chez les stoïciens, joue un rôle très important. C'est le pneuma. Et tout le pneuma, chez les stoïciens, c'est la première philosophie du pneuma. Hein. Les gens disent, dans Aristote, il n'y a pas de philosophie du pneuma. Eh bien, c'est les stoïciens qui vont développer le pneuma. C'est pour ça qu'il faut dire que la qualité chez les stoïciens développe la faculté pneumatique, c'est-à-dire tout l'aspect du dynamisme. Les stoïciens n'ont pas saisi le principe. Ils ont saisi les sujets et la qualité. Et la qualité donne ce dynamisme propre. Ce dynamisme pneumatique propre à la philosophie stoïcienne. Et la philosophie stoïcienne va alors impliquer cette chose très curieuse qu'on va appeler les tensions. Dans l'ordre de la qualité, dans l'ordre de la philosophie pneumatique. Il faudrait se demander si les charismatiques ont une théologie uniquement stoïcienne. Vous voyez, il y a des liens, vous savez, c'est pas fortuit ces choses-là. Bon, nous avons trois aspects, si vous essayez de comprendre. Platon, Aristote, les stoïciens. C'est trois aspects très importants. Alors, vous savez bien que les stoïciens ont joué un rôle extrêmement important au niveau de la tradition chrétienne, puisque de fait, c'est la philosophie stoïcienne qui va être à Rome au moment où les apôtres arrivent. C'est la philosophie stoïcienne qui est la première utilisée au niveau des docteurs de l'Église, au niveau des théologiens. Ce n'est pas Platon ni Aristote, mais ce sont les stoïciens. Et c'est pour ça que c'est toujours très important pour nous de comprendre ce que c'est que le stoïcisme. Parce que le stoïcisme a joué un rôle très important au niveau propre de l'élaboration de la théologie. Ce n'est pas étonnant. La première théologie était une théologie morale. Et les stoïciens, ce sont avant tout des moralistes. C'est pour ça qu'ils sont pneumatiques. C'est avant tout des moralistes. C'est avant tout une philosophie de l'action. Ce n'est pas une philosophie de la contemplation. C'est une philosophie de l'action. Alors, parce que c'est une philosophie de l'action, ça regardera avant tout le point de vue de l'opération, et l'opération comme qualitative, comme telle. Alors vous avez l'aspect du tonos. La tension, c'est le tonos. Alors vous voyez tout cet aspect qu'Aristote avait souligné. La qualité, c'est le plus, c'est le moins. Alors, ils ne retiennent de la qualité que ce plus et ce moins. L'aspect tonique. On a une espèce de cet aspect où on a une espèce de tension plus ou moins grande. Et cette tension plus ou moins grande exprime bien le pneuma. Celui qui n'a aucune tension, il est complètement crevé. Il n'y a plus rien du tout. Il est à plat, voulez-vous. C'est juste l'inverse de l'aspect pneumatique de la tension. Et ceci est lié à la qualité. La qualité donne cet aspect particulier d'un élan. Il faut saisir ce que ça veut dire, ce premier moment d'une philosophie éthique qui implique cet élan. Par le tonos, le réel, le corps reçoit sa qualité propre qui le constitue. Le réel, c'est le sujet, c'est le corps. Vous savez, pour les stoïciens, c'est le corps qui est réel, hein, c'est pas autre chose. Et alors, quel est l'aspect qualitatif qui enveloppe ce corps? C'est cet aspect pneumatique, le pneuma, le souffle, qui vient qualifier le corps et qui vient lui donner son aspect particulier. On peut préciser que ce tonos, dirigé vers l'extérieur, produit la qualité, dirigé vers l'intérieur, produit l'unité de l'être. Autrement dit, il y a une double tension. Une tension vers l'extérieur, une tension vers le point de vue de l'intérieur. La qualité dans le stoïcisme, la qualité est donc considérée avant tout comme un agent, une cause efficiente. Les qualités sensibles sont considérées comme ce qui agit sur nos représentations. La qualité sensible est un poyoun, donc un principe actif. La représentation, c'est l'altération de l'âme qui est l'effet direct de cette action. C'est une vision qualitative de la philosophie. Alors, je vous disais, Platon, philosophie de la qualité. Aristote saisit la qualité comme diaphora par rapport à la substance. Et les stoïciens saisissent l'aspect pneumatique de la qualité, l'aspect d'élan de la qualité. Comme c'est très curieux, ces trois grandes philosophies, par rapport à la qualité, nous donnent des points de vue tout à fait différents. On pourrait dire, chez Platon, la qualité se ramène et s'identifie à la forme. C'est la forme. Chez Aristote, c'est la diaphora. Et dans les stoïciens, c'est l'élan, c'est le tonos. C'est l'espèce d'élan, c'est le ressort. La qualité, c'est ce ressort qui permet la conquête ou qui permet l'unité. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'aspect qualitatif n'a plus d'unité. Il tombe dans le point de vue du simplement de la matière comme telle. Parce que ce tonos, c'est la conquête de la qualité sur la matière. Plus tard, en particulier chez Épictète, Épictète, c'est le sommet d'intériorité des stoïciens. Épictète, en l'an 50, après Jésus-Christ. Hein. C'est pour ça qu'on doit aimer particulièrement Épictète. Puis c'est l'esclave devenu philosophe. Donc c'est tout à fait à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Eh bien, Épictète, comme tel, la qualité sera comme dépassée par le point de vue de l'ordre voulu par la providence. Le tonos du début devient conformité à l'ordre providentiel. Vous voyez qu'on a déjà chez lui tout ce qu'on retrouvera dans le point de vue de l'abandon. Très très curieux. Le tonos du moral, le tonos va se transformer en conformité avec l'ordre providentiel. providence, parce que les stoïciens développent avant tout le point de vue de la providence. Aristote et Platon ont découvert la transcendance de Dieu, et immédiatement après, c'est l'immanence, par le point de vue de la providence. On pourrait dire quelque chose d'analogue avec Leibniz, si vous voulez. C'est le point de vue de la providence, la diké, l'ordre de la providence. Eh bien, les stoïciens, c'est l'ordre de la providence. Alors, pour eux, la qualité dominante de l'homme, ce qui va exprimer cet aspect tonique de l'homme conquérant, ce sera la conformité avec la providence. Alors on va retrouver dans cette conformité avec la providence le lien entre l'aspect actif et l'aspect passif. Mais les deux sont liés. Faut pas dire que l'abandon, c'est l'abandon psychologique, c'est pas ça du tout. C'est le tonos dans la conformité à l'ordre de la providence. Et je crois que c'est la première signification de l'abandon au niveau philosophique.